Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 80, Daf P. Bonne écoute et bon limoud.
On commence la Mishnah. Halokeach perot shovach mechavero mafriach brecha rishona. Celui qui achète la progéniture d'une année d'un pigeonnier, explique le Rashbam, chaque mois les pigeons du pigeonnier pondent deux œufs, un couple, un mâle et une femelle. Chaque progéniture de chaque mois est appelée brecha, couvée. Alors, nous dit la Mishnah, l'acheteur ne pourra pas tout prendre, il va devoir laisser la première couvée, la couvée du premier mois. Étant donné que s'il prend tout, les pigeons père-mère vont partir eux aussi. Et puisque ces pigeons n'ont pas été vendus, c'est que le vendeur est intéressé que son pigeonnier continue de fonctionner. Donc forcément, il n'a pas vendu la première couvée. Perot kaveret, notel gimel nechilim ou mesares. Celui qui a acheté les abeilles d'une ruche, mais pas les abeilles adultes de la ruche, mais plutôt les perot, la progéniture des abeilles futures, nous dit le Rashbam, voici comment ça se passe. Au début de l'été, il y a un essaim de nouvelles abeilles qui sortent de la ruche, et alors le propriétaire place une nouvelle ruche, et de nouveau, au bout d'environ 10 jours, la première ruche a reproduit un essaim, et celui-ci sort de la ruche, et on amène une nouvelle ruche, et ainsi de suite. Donc celui qui a acheté la progéniture d'une ruche d'une année, notel gimel nechilim, il prendra les 3 premiers essaims, ou mesares. Et ensuite, le vendeur a le droit de rendre stériles les abeilles. Comme ça, elles sont occupées à faire un miel de meilleure qualité. L'acheteur ne pourra pas l'empêcher en lui disant que tu m'empêches de prendre mon produit, la progéniture que j'ai achetée, étant donné qu'il a reçu ces 3 essaims. Chalot dvash maniach bet chalot. Celui qui a acheté les gâteaux de miel d'une ruche, il va devoir laisser 2 gâteaux, sinon les abeilles n'auront pas de quoi se nourrir en hiver et elles vont mourir ou partir. Donc forcément, 2 des gâteaux n'ont pas été vendus. Zetim lakout, mani achete groufiot. Celui qui a acheté un olivier pour le couper, pour couper ses branches, il va devoir laisser 2 branches. Sinon, l'arbre ne pourra pas repousser. Étant donné que l'arbre même n'a pas été vendu, donc l'acheteur a le droit de le couper d'une façon à ce qu'il puisse repousser. Donc il va laisser 2 branches. On commence la Gemara. Vatania brecha rishona veshnia. Comment la Mishnah dit que l'acheteur va devoir laisser la première couvée? Dans la Braïta, on a vu qu'il va devoir laisser les 2 premières couvées, la première et la deuxième. Maravkana lokashia, hala aloima. La Mishnah parlait uniquement des couvées de la première génération, des pigeons originales. À cela, on va leur laisser uniquement brecha rishona, leur première couvée. Et la Braïta nous rajoute qu'au bout de 2 mois, comme quoi la première couvée qu'on a laissée sera déjà adulte et elle-même va commencer à produire des couvées, de cette première couvée, l'acheteur ne pourra pas tout prendre, il va devoir laisser la première couvée. Donc en résumé, la première couvée de la génération originale et aussi il va falloir laisser la première couvée de la première couvée. C'est ça que la Braïta appelait Rishona Veshnia, la première et la deuxième couvée. Demande la Gemara. Maishna imma de mitztaveta abarta va zuga de shabkinan la, ihina mititztaveta a imma va zuga de shabkinan la. Pourquoi faut-il laisser une couvée à la couvée, de même que la femelle des pigeons originaux va rester si on lui laisse la compagnie de sa fille, donc de la première couvée, et de son conjoint? Pareil, la femelle de la première couvée va rester grâce à la compagnie de sa mère et de son conjoint. Pourquoi faut-il lui laisser en plus une couvée? Répond la Gemara, ima abarta mitztavta, barta aima lo mitztavta. La mère peut se joindre à sa fille, et donc la mère restera pour sa fille, mais la fille ne se joint pas à sa mère, et donc ce n'est pas pour la compagnie de sa mère qu'elle restera. C'est pour cela qu'il faudra lui laisser une couvée à elle. On a vu dans la Mishnah, perot kaveret notel gimel nechilim umesares, demande la Gemara, bema mesarsan, comment peut-il rendre stériles les abeilles? Amar Avuda Amar Shmuel Bechardal, nous dit Rav Yudah de Shmuel avec de la moutarde. Comment cela? Amre Bema Rava Mishme de Rav Yossi Bar Chanina. Amar Rava, on a expliqué cela au nom de Rav Yossi Bar Chanina. Lo Chardal Mesarsan. Ce n'est pas la moutarde qui les châtre. Et la mitor chez Piem Chad, Chozrot Veochlon et Dovshanan. Du fait qu'ils ont un goût piquant dans leur bouche, elles n'arrêtent pas de remanger leur miel, et donc elles sont tout le temps occupées à produire du miel, et elles n'ont pas le temps de se reproduire. Rabbi Yochanan Amar, notel shlosha nechilin besirus. Rabbi Yochanan explique la Mishnah, non pas qu'après avoir pris trois essaims, il va châtrer les abeilles. Dans la Mishnah, sirus ne veut pas dire châtrer, mais plutôt cela vient de la racine, déformer ou sauter. Donc il prendra trois essaims par intermittence. Le premier, le troisième et le cinquième. Bematnita Tana, et la Breta nous explique, notel gimel nechilim bezeach arze, nikan veilach, notel achat ou meniach achat. Il prendra les trois premiers essaims, et ensuite mesares. Ensuite, il les prendra par intermittence. Le cinquième, le septième, etc. On reprend le passage de la Mishnah, chalot vash, maniach shte chalot vecholo. Amar Rav Kahana, dvash bekaveret enoyotse mide maachal leolam. Le miel qui est dans la ruche, même s'il sert pour nourrir les abeilles, il sera toujours considéré comme un aliment, et en tant que tel, il pourra devenir impur s'il entre en contact avec une impureté. Metive, l'Agmara oppose une braïta, dvash bekaveret eno lo ochel velo mashke. Le miel dans la ruche n'est considéré ni comme un aliment et ni comme une boisson, et donc en aucun cas il deviendra impur. Amar Abaye lotzricha et la lotan shtechalot. Nous dit Abaye, en effet tout le miel est considéré comme un aliment, comme l'a dit Rav Kahana, et dans la braïta il s'agit uniquement des deux gâteaux de miel qu'on laisse pour les abeilles pour l'hiver, ces deux-là ne sont pas considérés comme un aliment. Rava Amar, Rabbi Eliezeri, Rava lui répond que l'auteur de la braïta c'est Rabbi Eliezer.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On tourne la page, on est Péa Moudbet. De Tnan, comme on a vu dans la Mishnah, Kaveret Dvorim, la ruche d'abeilles, Rabbi Eliezer Omer Arik Karka, Vekotvim Alea Prosboul, Veena Mekabelet Touma Bimkoma, Veharode Mimena Beshabbat, Chayav Khatat. D'après Rabbi Eliezer, elle est considérée comme un bien immeuble. Et en tant que telle, comme on l'a expliqué longuement dans le quatrième chapitre, le créancier va devoir renoncer à sa dette après la septième année, l'année de la Shemitah. Et pour éviter cela, pour pouvoir continuer même après cette année à réclamer ce qui lui est dû, il va devoir écrire un prouse-boule. L'écriture de prouse-boule est possible uniquement si le débiteur a un bien immeuble. Donc nous dira bien Eliezer, si le débiteur a uniquement une ruche, cela est suffisant. On pourra écrire le prouse-boule. Et en plus, comme tout ce qui fait partie du sol, la ruche ne pourra pas être souillée par une impureté. Et celui qui extrait le miel de la ruche le jour du Shabbat, c'est comme s'il a coupé une plante du sol, et donc il a transgressé le Shabbat, et il va devoir se faire pardonner par un sacrifice. Telle est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rachamim omrim, en kotvim alea prosbul, ve enna ke karka, umkabelet tumabim koma, va rodemimena be Shabbat patour. La ruche n'est pas suffisante. Et si c'est l'unique bien que possède le débiteur, on ne pourra pas écrire de prosboul. Et cette ruche n'est pas considérée comme un bien immobilier, et donc elle pourrait être souillée par une impureté. Et celui qui en extrait du miel le jour du Shabbat est exempté. Donc, d'après Chachamim, le miel de la ruche est considéré comme un aliment. Et d'après Rabbi Eliezer, il ne l'est pas. Amar Rabbi Elazar, Maïta Amar de Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar nous explique la raison de Rabbi Eliezer, d'Irtiv, car nous dit le verset, Vaitbol Ota, Biarat Advash. Et il a trempé son bâton dans la forêt de miel. Vechima Inyan Yaret Advash. Quel rapport y a-t-il entre la forêt et le miel? Et là, l'Omar Lacha, Maya Ratoleshimeno Beshabat Chayav Khatat, Aft Vash Harodemimeno Beshabat Chayav Khatat. Cela est pour t'apprendre la comparaison. De même qu'à propos de la forêt, celui qui déracine un arbre le jour du Shabbat l'a transgressé et il va devoir apporter un sacrifice expiatoire. Pareil à propos du miel. Metive, l'Agmara demande, Dvash Hazav Mikavarto Eno Lohochel Velomashke. Le miel qui a coulé de sa ruche n'est considéré ni comme un aliment et ni comme une boisson. Bishlama le Abaye Nicha et la le Ravakashia. On pourra comprendre cela d'après Abaye, comme quoi il s'agit uniquement des deux gâteaux de miel réservés aux abeilles. C'est pour cela que de toute façon, même s'il a coulé, il n'est pas considéré ni comme un aliment et ni comme une boisson. Mais d'après Rava, que la raison pour laquelle il n'est pas considéré comme un aliment ou une boisson, c'est du fait qu'il fait partie de la ruche, et donc il est considéré comme partie intégrale du sol. Maintenant qu'il a coulé de sa ruche, c'est comme s'il a été cueilli. Alors pourquoi dans ce cas-là n'est-il pas considéré comme un aliment? Amar Rav Zvid, Kegon Shezav al Gabek Limaus. Répond sur cela Rav Zvid, il a coulé sur un ustensile dégoûtant. C'est pour cela qu'il n'est toujours pas considéré comme un aliment. Rav Chabar Yaakov Amar, que Gonchezav al Gabe Kaskasin. Rav Chabar Yaakov lui répond, s'il a coulé sur un ustensile dégoûtant, il pourra être ramassé, rassemblé, et dans ce cas-là, il est considéré comme un aliment. Par contre, dans cette variété, il s'agit du miel qui a coulé sur des brindilles, et donc ce n'est pas possible de le ramasser, c'est pour cela qu'il n'est pas un aliment. Mais tu veux, on oppose une autre braïta. Vache be kavarto eno lo ochel velo mashke. Le miel dans sa ruche n'est pas considéré ni comme un aliment et ni comme une boisson. Chishav alav lo achila metametu matochlim. Et s'il a pensé à lui, il a décidé de le manger comme aliment, il devient aliment et il pourra devenir impur comme le devient un aliment. Le mashkin metametu mat mashkin. Et s'il a pensé à lui comme boisson, il a décidé de boire ce miel, il devient boisson et pourra devenir impur comme le devient une boisson. On pourra admettre cela d'après Abaye, que la raison pour laquelle jusqu'à présent il n'était pas considéré comme aliment, du fait qu'il était réservé pour l'alimentation des abeilles, donc à présent qu'il a pensé à lui comme aliment ou comme boisson, il prend le statut de l'aliment ou de la boisson. Mais d'après Rava, que la raison pour laquelle jusqu'à présent il n'était pas considéré comme aliment, c'est du fait qu'il faisait partie intégrale du sol. Pourquoi s'il a pensé à le consommer ou à le boire, il pourra devenir impur? Il fait toujours partie intégrale du sol. Répond la Gemara, Amar lo Harava, Tritzachi, Chishav alav lo achila, eno metamet umat ochlin, le mashkin, eno metamet umat mashkin. Voici comment il faudra corriger la braïta. Et même s'il a pensé à ce miel, de le consommer, de le faire aliment, il ne prend pas le statut de l'aliment, et donc il ne deviendra pas impur, comme le devient l'aliment. Et s'il a pensé à lui en tant que boisson, il a décidé de boire le miel, celui-ci ne prend pas le statut de la boisson, et donc il ne pourra pas devenir impur comme le devient la boisson. Tania kavate de Rav Kahana, on a vu une braïta qui approuve les propos de Rav Kahana. Dvash be kavarto metametu matochlin shelo b'machshava. Le miel dans sa ruche pourra devenir impur comme le devient l'aliment, et cela même s'il n'a pas pensé à ce miel de le consommer. Donc on voit, comme l'a dit Rav Kahana, que le miel dans la ruche est toujours considéré comme un aliment. On se trouve dans le daf P Amud Bet. On commence un nouveau sujet. On est aux deux points, au début, des lignes larges. On a vu dans la Mishnah Zetim Lakut Maniach Shtegrufiot, celui qui a acheté un olivier pour le couper, il va devoir laisser deux branches. Tanoura Banan, on a pris dans la Braïta, Alokeach Ilan Mechavero Lakut Magbiya Minakarka Tefach. Celui qui a acheté un arbre de son camarade pour le couper, il va devoir laisser une hauteur à partir du sol de un Tefach, de une poignée. Et ensuite le kotset, ensuite il pourra le couper. Étant donné que pour repousser, l'arbre a besoin d'une hauteur de au moins un tefar. Betulat hashikma gimel tfachim, seden hashikma bet tfachim. Et si l'arbre en question est un jeune sycomore, pour repousser il a besoin de 3 tfachim. Donc il faudra laisser une hauteur de 3 tfachim. Et pour un vieux tronc de sycomore, 2 tfachim sont suffisants. Bekanim ou bikfanim minapkak ou le mala. Et s'il s'agit de jonques ou de vignes, il faudra laisser depuis le sol jusqu'au premier nœud. Donc il pourra couper à partir du premier nœud et plus haut. Bet kalim ou be'arazim, chofer ou mesharesh, le fiche en gizan marlif. Et à propos du palmier et du cèdre, il pourra creuser et le déraciner, étant donné que de toute façon, leur tronc ne se renouvelle pas. Du moment où ils étaient coupés une fois, ils ne repoussent plus. Demande la Gemara, uptulat ashikma gimel tfachim be'inan. Comment peut-on dire qu'à propos du jeune sycomore, 3 tfachim sont nécessaires? Urmini, on oppose à cela, en kotsetsim betulat ashikma beshvi'it, mipnechei avoda. On ne pourra pas couper le jeune sycomore la septième année, l'année de Shvi'it, étant donné que durant cette année, il est interdit de travailler les champs, et ceci est considéré comme un travail, puisque en le coupant, il va pouvoir pousser encore plus. Rabbi Daomer, kodarko asur, ela magbiayut fachim ve kotset, ogomem meimaret. D'après Rabbi Uda, le couper, suivant la procédure habituelle, ceci est interdit. Donc s'il voudra le couper, il va devoir laisser une hauteur de 10 tfachim, et ensuite il pourra le couper. Cela abîme l'arbre et ne le renforce pas. Ou bien, deuxième possibilité, il le coupe dès la surface du sol. À ce moment-là, il ne pourra plus repousser. Donc on voit d'ici, « Mais im aaret ou de kashi haïdach ma'alila » C'est que si on le coupe à la surface du sol, que ceci est mauvais pour l'arbre, mais au-dessus de la surface, même si on n'a pas atteint une hauteur de 3 tfachim, ceci renforce l'arbre. Ceci est bon pour l'arbre. Réponds sur cela Abaye. Amar Abaye, gimel tfachim, ma'alila, meimaret, vadai kashila, mikan veilach, lo miksha kashila, velav iluye ma'alila. Au-dessus de 3 tfachim, coupez l'arbre. Ceci est certainement bon pour l'arbre. Ça le renforce. Il poussera mieux. Le couper dès la surface du sol, ceci est certainement mauvais pour l'arbre. Ça l'affaiblit. et le couper entre la surface du sol et trois tfachim, ceci est ni bon pour l'arbre et ni mauvais pour lui. Ni ça le renforce et ni ça l'affaiblit. C'est pour cela que Gabeshviit Avdinan Mide de Vadaï Kashila, Gabemekachumemkar Avdinan Midi de Vadaï Maalila, à propos de la septième année, pour ne pas transgresser l'interdit, on va permettre uniquement un acte qui est certainement mauvais pour l'arbre, donc uniquement le couper de la surface du sol. Mais à propos de la vente, on va permettre uniquement un acte qui n'abîme, qui n'affaiblit pas l'arbre, donc uniquement à partir d'une hauteur de 3 tfachim. Et qu'est-ce qu'on a dit, Bitkalim ou Varazim, Khofer ou Mesharesh, le Fichen Gizan Nachlef? À propos des palmiers et des cèdres, on pourra creuser et le déraciner, étant donné que leur tronc ne se renouvelle pas. Demande la Gemara Verez en Gizan Nachlef. Est-il vrai que le cèdre coupé ne repousse pas? Vadarish Rabbi Chia Barlouliani. Rabbi Chia Barlouliani a fait le commentaire suivant. Maï dirtiv tzadikatamari frach, que Erez banvanan yisge. Comment expliquer le verset où il est écrit que les justes croissent comme le palmier? Il s'élève comme le cèdre du Liban. Imnemar tamar, lamanemar erez, vimnemar erez, lamanemar tamar. À quoi on a comparé le tzadik? Si le verset a parlé du palmier, pourquoi a-t-il mentionné le cèdre? Et s'il a parlé du cèdre, pourquoi a-t-il mentionné le palmier? Ilunemar erez, velonemar tamar. Si le verset avait parlé uniquement du cèdre et non pas du palmier, aetiomer ma erez en oseperot, af tzadik en oseperot. J'aurais pu conclure. De même que le cèdre n'est pas un arbre fruitier, pareil, le tzadik ne fait pas de fruits. Le karné martamar, c'est pour cela que le verset a mentionné le palmier, comme quoi celui-là donne des fruits. Vimne martamar velon emar erez, aetiomer matamar en gizomachlif, af tzadik en gizomachlif, le karné mar erez. Et si le verset avait mentionné uniquement le palmier, sans parler du cèdre, j'aurais pu conclure que le tzadik, tout comme le palmier, ne produit pas de nouvelles pousses quand on a coupé. C'est pour cela que le verset a mentionné le cèdre, pour nous dire que le tzaddik se renouvelle comme se renouvelle le cèdre. En tous les cas, on voit que le cèdre se renouvelle. Répond la Gemara, et là, il y a plusieurs espèces dans la famille du cèdre. En effet, le cèdre même repousse quand on le coupe. Mais les autres, les sous-espèces, eux ne repoussent pas. Que de Rabba Baravuna, comme nous le dit Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna, Amre Berav Yud Mina Razinen. On a appris dans l'école de Rav qu'il y a 10 arbres de la famille du cèdre. Chenemar, comme le dit le verset, Eten Damidbar, Erez, Shita, Vehadas, Vehchemen, Asim, Vegomer. Je vais faire croître dans le désert le cèdre et etc. d'autres arbres. Donc tous font partie du cèdre. La Gemara explique, Erez, Arza, le Erez c'est le cèdre, Shita, Tornita. L'arbre appelé Shita, c'est le Tornita, nous dit le Rashbam, le pain. Hadas, Asa, le Hadas c'est le myrte, Etchemen, Afarsema, l'arbre de l'huile. C'est celui appelé Afarsema, broche, parti. Le broche, c'est le parti, nous dit le Rashbam, le buis. Tidhar, Chaga. Le Tidhar, c'est celui appelé Chaga. Le Tachour, Shurbina. Et le Tachour, c'est celui appelé Shurbina. Demande à Gemara, Hani Zain Abu, comment tu arrives à 10 espèces? Il n'y en a que 7. Qui a ta Ravdimi Amar? Quand Ravdimi est venu, il a expliqué, Hosifu Alehem, Alonim, Almonim, Almogim. On a rajouté ensuite 3 espèces. Les alonim, les almonim et les almogim. La Gemara explique. Alonim, botne. Alonim, c'est le tilleul. Almonim, blouté. Almonim, c'est le blouté. Et almogim, xita. Et le almogim, c'est le xita. Nous dit le Rashbam, le corail de la mer.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.